Qu'ont à nous dire les dieux et les héros de l'Antiquité? Les invités du grand entretien de France Inter ce matin, ils sont deux, l'un est dessinateur, l'autre est philosophe, et ils éclairent l'actualité, le monde d'aujourd'hui, notre société, à la lumière de la mythologie grecque. Ils publient le tome 2 de leur BD 50 nuances de grec chez Dargo. Pour intervenir, dialoguer avec Jules et Charles Pépin d'ici une quinzaine de minutes, le 01 45 24 7000 ou l'application France Inter. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Et bienvenue Jules, dessinateur engagé, parrain de l'année de la BD, l'année de la BD 2020, et Charles Pépin, philosophe. Le premier tome de votre 50 nuances de grec, de cette encyclopédie des mythes et des mythologies sous format BD, a connu un immense succès, près de 100 000 exemplaires vendus. La mythologie pour éclairer l'actualité, et l'actualité expliquée par les Grecs et les héros de l'Antiquité. Et ça marche. Jules.
Ben oui, parce qu'en fait, il y a quelque chose d'éternel dans la mythologie, on le sait bien. Les deux grands principes de la mythologie grecque, c'est Eros et Thanatos, l'amour et la mort, et surtout le sexe et la violence. Quand on sait que 90% de la bande passante d'Internet est utilisée pour des sites porno, et quand on voit, on vient de le voir dans le journal, l'étendue de la violence qui agite les relations humaines sur la planète aujourd'hui, c'est évidemment une grille de lecture ultra opérante, et ça permet de prendre de la distance par rapport à des événements qui apparemment nous dépasse et de comprendre un petit peu plus finement et un peu de reprendre un peu de liberté de jugement par rapport à ce qui nous arrive en pleine face comme ça assez brutalement.
Qu'est-ce que ces mythes vieux de parfois 2600 ans ou encore à nous dire Charles Pépin, à nous dire aujourd'hui à nous?
Ben, ils nous disent deux choses. Déjà, ils nous disent qu'on est dans un monde qui vient aussi du tragique grec et pas simplement de l'espérance chrétienne, hein. C'est deux choses très différentes. Nous, on est tenté de penser qu'il y aura une justice, qu'il y aura une réparation pour les torts, pour que les victimes qu'il y aura quelque chose pour elles. Alors qu'en fait, si on se plonge dans la mythologie grecque, on se dit que peut-être, ben non, il y a du tragique, il y a un destin, il y a le monde est comme ça. Donc c'est aussi un apprentissage, peut-être, de la nature même du réel qui est intéressant. Et puisque ça nous apprend aujourd'hui, aussi, c'est l'idée d'une police. Un mythe, ça a plusieurs sens. Oui. Or, aujourd'hui, on veut toujours que les choses aient une signification, on veut une réponse à une question. Et quand on voit, par exemple, une figure mythologique, n'importe laquelle, celle d'Apollon, elle a plusieurs sens. D'un côté, c'est la beauté, de l'autre côté, c'est la violence. C'est la beauté qui cache la violence, c'est la violence qui surgit dans la beauté. Et en fait, ça nous fait beaucoup de bien de découvrir cette espèce de richesse de signification et, au fond, de polysémie.
Quelle est la différence entre les mythes des Grecs et les contes, les légendes d'aujourd'hui, les contes qu'on raconte en cette période de fête? Par exemple, les Grecs n'avaient pas de livres sacrés comme les monothéismes qui leur ont succédé. Leurs dieux, leurs héros ont été inventés par des poètes.
Bah c'est, d'abord, avant de voir la différence, il y a une énorme ressemblance entre les contes et les mythes. C'est que c'est de l'imaginaire qui est fait pour éclairer la réalité et pour nous dire une forme de vérité. Après, il y a une petite différence, c'est que dans un conte, la narration est plus précise. C'est une histoire plus précise. Dans un mythe, on a une charge générale et universelle qui se dégage directement. C'est pour ça que c'est passionnant. Si vous voulez, par exemple, le mythe d'Aphrodite, c'est la sensualité, en même temps elle vient d'un sexe tranché, donc c'est la violence et le désir en même temps. Il n'y a pas une narration très précise comme dans un conte pour enfants.
Et il y a aussi la question politique, Jules, puisque vous êtes aussi un dessinateur engagé, vous avez travaillé pour de nombreux titres, notamment pour Charlie. Vous voyez des résonances dans l'époque politique, dans les conflits sociaux, avec ce qui s'est passé dans ces livres qu'on doit à Homère, à Hésiode et à d'autres.
Absolument, il y a une dimension prophétique quasiment, hein. Bon, il y a beaucoup de pythies et d'oracles dans la mythologie grecque, mais en fait quand on a commencé à faire 50 nuances de grec déjà avec le premier tome avec Charles Pépin, on n'avait pas prévu que ça pourrait devenir un manuel de survie sous la présidence jupitérienne.
Alors vous ne croyez pas si bien dire, manuel de survie avant d'en arriver à la présidence jupitérienne, manuel de survie, écoutez cette voix, c'est Boris Johnson, qui n'était pas encore Premier ministre, qui récitait l'Iliade de mémoire en grec ancien devant un parterre de personnes qui l'applaudissaient.
Sminthiou, kaitenidoio ifeanathois, tisean danaroi emadakra soisi belesin, and so on. I could go on.
Boris Johnson, donc, qui s'exprimait en grec ancien, qui citait l'Iliade. La vidéo n'est pas récente, mais elle fait le tour des réseaux depuis hier. Et l'explication que donnait Boris Johnson à l'époque, c'est que quand il a un problème, il récite ce magnifique texte de l'Iliade qui parle d'Achille. Jules,
oui, c'est assez prodigieux quand on regarde cette vidéo, parce que c'est vrai, hein, il récite vraiment l'Iliade, donc ça paraît impressionnant. D'une certaine façon, c'est réjouissant. Il y a le côté, voilà, le surnom Hubris Johnson, hein, l'espèce de sentiment de toute puissance grecque. Effectivement, il est arrivé au pouvoir. Alors, on peut être épaté par ça, et en même temps, faut se rappeler que c'est le fruit d'une éducation ultra aristocratique. C'est quelqu'un qui a fait Eton, les plus grandes écoles anglaises,
Oxford,
fait des lettres classiques. Lui, il parle plein de langues, plus le latin et le grec. Et on pourrait se dire, bien sûr, c'est très utile d'avoir ce bagage-là de la mythologie, de cette culture classique pour gouverner un pays. Et en même temps, une des choses, c'est que ce qu'on voudrait faire avec Charles Pépin, quand on publie des bandes dessinées avec de la philosophie là-dessus, c'est que ce soit pas réservé juste à une élite. Et que cette espèce d'héritage, ce message grec et cette puissance-là, ce soit pas réservé à Boris Johnson devant un public, un aréopage de fans, mais que chacun, à travers la bande dessinée, puisse ouvrir des fenêtres et aller vers cet héritage-là qui nous irrigue tous dans la langue la plus commune.
Charles Pépin. Et puis, il faut pas oublier aussi que avoir des lettres n'oblige pas à être humaniste. Hein. On a vu beaucoup de salauds très lettrés. Et par ailleurs, ce qu'il faudrait aussi rappeler à Boris Johnson, c'est que, justement, chez Homère, on trouve ce personnage de Dionysos qui est très intéressant parce que c'est l'étranger, c'est l'étrange, c'est celui qui dérange, et il va finir par être panthéonisé et devenir un dieu à l'égal des autres dieux.
Pas n'importe
ce qui veut
quel
dire
dieu.
Qu'au fond, pour les Grecs, et ça, il n'a peut-être pas compris ça, Boris Johnson,
donc, il y a toujours des
en fait,
positions racistes
l'hospitalité...
Permanentes.
C'est vraiment ce qui distingue l'homme de l'animal. Et l'étranger, d'après cet esprit grec, me fait un honneur en me demandant de l'accueillir. Il faudrait peut-être lui rappeler ça aussi.
Il y a quelque chose d'intéressant quand on regarde les textes d'Homère, c'est de voir par exemple qu'Ulysse peut permettre de comprendre justement la condition de réfugié, la condition d'exilé, la condition de quelqu'un qui doit quitter chez lui pour éventuellement un jour espérer y revenir. C'est ce type de lien, d'analogie qui vous intéresse
bien sûr, c'est cette électricité
dans les mythes et la mythologie grecque.
C'est ce qui m'intéresse évidemment dans la mythologie, mais aussi dans le dessin de Jules, qui a pour fonction chez moi de me faire avoir des idées nouvelles. C'est vrai que Ulysse dessiné par Jules, c'est pas le Ulysse qu'on lit chez Homère. Il y a un trait comme ça assez électrique et qui donne des idées. Je prends un exemple quand il dessine Pégase. Donc Pégase, c'est un cheval ailé. D'habitude, il est assez majestueux, assez imposant. Et en fait, il le dessine comme un pauvre petit cheval avec des ailes qui ont été greffées de manière fantaisiste. Et ça m'a fait penser à la critique que fait Descartes de l'imagination. Descartes qui dit « Ne croyez pas que vous imaginez très loin, que vous imaginez des choses folles. » En fait, quand on imagine, on fait juste qu'associer de manière un peu originale des éléments qu'on connaît. Donc on connaît les ailes, on connaît les chevaux. Et donc Pégase, ça n'est que ça. Donc parfois, il y a des espèces de lumières comme ça qui sont liées aux traits de Jules qui sont intéressantes pédagogiquement.
Jules. Oui, et puis en fait, Charles, dans le livre, il approfondit avec un petit essai philosophique un gag qui est une planche de bande dessinée comme ça, qui essaie de synthétiser. Et lui, il démonte un petit peu, il approfondit toutes ses intuitions. Donc j'ai besoin de lui d'une certaine façon pour avancer. Mais c'est vrai que d'un côté, il y a un côté burlesque vraiment marrant. Et donc quand on parle du harcèlement sexuel, on invente le hashtag MeTooo parce qu'évidemment, les précurseurs de cette espèce de dévoration masculine par rapport au sexe féminin, elle l'est dans toute la mythologie. Tous les dieux auraient un hashtag aujourd'hui. Les viols, les harcèlements, c'est monnaie courante. Mais effectivement, quand on parle de, par exemple, de la question des migrants et de ces gens, moi je peux... En fait,
vous reprenez un mythe.
Ça fait 10 ans.
Scylla.
Pour moi, c'est obsessionnel.
Vous en faites un dessin.
De Charybde en Scylla, c'est des deux espèces de monstres marins entre lesquels l'Odyssée, le vaisseau d'Ulysse, doit passer en essayant d'arriver sauf à un port d'attache dont il ignore tout encore. Cette traversée de la Méditerranée, évidemment, d'Ulysse, elle synthétise tout le drame quotidien des migrants. Moi, je peux plus, depuis 10 ans, faire un seul album de bande dessinée, que ce soit Silex and the City, La planète des sages ou 50 nuances de grec, où il n'y a pas un minimum, au moins ce signe de piste, de dire voilà, bien sûr, on se marre, on commente l'actualité, mais ce drame-là, cette espèce de honte morale, cette espèce de désarroi qu'on peut avoir par rapport à notre situation nantie d'Européens face à ces gens quotidiennement qui se noient en Méditerranée, on ne peut pas l'oublier non plus. Il faut le mettre en scène et la mythologie nous aide à comprendre ça.
Et surtout, elle aide à poser les questions les plus sérieuses sur les migrants ou sur la sexualité violente. Par exemple, comment expliquer que chez Homère, tous les dieux soient des violeurs? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, il y a deux idées. Soit il veut nous dire qu'au fond, le désir est violence, soit il veut nous dire le contraire et par une sorte d'exemplarité négative, nous inviter à penser une virilité qui ne serait pas dans le harcèlement et la possessivité, mais qui serait dans le respect de la liberté de l'autre, et qui serait en fait dans le fait de se tenir, de se contenir, et de ne pas être un violeur, justement. Et ce qui est très beau avec cette mythologie, c'est qu'elle pose des questions, mais heureusement, elle ne répond pas.
Il y a des dieux, mais il y a aussi des héros. On a parlé d'Ulysse, mais on peut évidemment parler d'Achille et d'autres. Est-ce que ça permet de penser ce qu'est l'héroïsme aujourd'hui encore.
Bah évidemment, ça fait parce que ça fait beaucoup de bien d'entendre quelque chose de non relativiste. Aujourd'hui, on dit ça dépend, tu peux faire ça ou pas, ça dépend des situations. En fait, le héros, pour lui, ça dépend pas. Il est toujours dans l'absolu. Il va se sacrifier pour quelque chose qui est plus grand que lui, et il va être incapable de mettre son intérêt particulier devant ce qui serait la cause d'un pays ou même d'une valeur. Et donc, il y a ça, comme ça, c'est cette idée aussi de pas avoir peur de souffrir, cette idée que le corps finalement peut s'en prendre plein d'épées et finalement que je demeure un chevalier de la vertu. Et effectivement, chez Homère, on lit comme ça ces histoires d'héroïsme. Et on s'aperçoit aussi qu'un héros, c'est quelqu'un qui nous donne des rêves de grandeur, même si nous, on n'est pas autant héros que lui, on a envie de ressembler un petit peu, quoi.
Jules, vous aimez la caricature. C'est d'ailleurs un art que vous maîtrisez parfaitement. Vous arrivez à caricaturer ce qui, a priori, n'est pas caricaturable. Les dieux, les héros des mythes grecs, c'est pas quelque chose qui incite à sourire en général.
Oh, d'une certaine façon, ça nous a tellement nourri qu'on peut l'utiliser de toutes les manières. À vrai dire, la mythologie grecque, les grands canevas, ben, c'est le vaudeville. C'est la mythologie grecque, c'est les télénovelas, c'est Plus belle la vie, c'est Star Wars. C'est-à-dire que notre héritage culturel.
Enfin, c'est plutôt Star Wars que tes violences.
Oui, non, mais les grandes relations, hein, les grands blocs de les passions humaines, la jalousie, la vengeance, la filiation, le désir, l'envie et l'héroïsme évidemment. Il y a toujours une dimension tragicomique.
Mais quand même, dans votre question, Ali, j'entends quelque chose qui me parle. C'est qu'effectivement, parfois, Jules, tu les dessines de manière trop gentille, quoi, ou trop mignonne, ou trop caricaturale, et on n'imaginait pas comme ça. On n'imaginait pas Priap si ridicule, on n'imaginait pas Apollon si maigrelet. Et c'est vrai que c'est ça qui est drôle aussi.
Mais parce qu'aujourd'hui, c'est
l'illustration du Morning Glory, comme on dit. Je voulais juste vous poser une ou deux questions avant de retrouver les auditeurs d'Inter qui veulent dialoguer avec vous. Quand vous montrez que la mythologie grecque permet de penser notre époque, là, par exemple, on est en train de vivre la période des fêtes. Il y aura bientôt le passage d'une année à l'autre. Qu'est-ce que ça nous dit, Charles Pépin, de notre rapport au temps? Qu'année après année, tout revient à l'identique, c'est l'éternel retour?
Justement, nous, on n'est pas habitués à voir ça comme ça. On prend des bonnes résolutions parce qu'on veut que les choses changent. On est dans cette vision du monde linéaire. Il y aurait un progrès de l'histoire et d'année en année, on pourrait progresser. Et cette vision du temps linéaire est héritée d'une vision chrétienne où il y a un péché originel et une rédemption finale. Et ben, chez les Grecs, c'est pas ça. Il y a l'idée d'un éternel retour du même. On trouve chez Héraclite cette idée que tout revient tout le temps. Et cette idée aussi du tragique qui fait que j'ai beau essayer de progresser, de prendre des bonnes résolutions, rien ne changera parce que le réel, c'est ce contre quoi je me cogne. Il est plus fort que moi. Et c'est pas avec mes petites espérances humaines, mes petits rêves, mes petits projets que je vais améliorer les choses. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous, on comprenne qu'on est les enfants des deux. De cette espérance chrétienne linéaire et de cette idée grecque tragique d'un temps cyclique où tout revient toujours.
En revanche, il y a, par exemple, des notions qui nous sont profondément, qui sont intimement attachées à chacun d'entre nous. L'espoir, par exemple. Oui. Que les Grecs ne comprennent pas, ou en tout cas qu'ils perçoivent comme quelque chose de négatif. L'espoir, ça n'a rien de positif dans un monde tragique.
C'est un peu la même idée. C'est que nous, on est habitués à penser que l'espoir fait vivre et qu'il faut espérer pour améliorer les choses. Mais ce qu'on découvre dans le mythe de Pandore, dans la box de Pandore, ainsi que Jules la dessine.
On dit la boîte, monsieur le professeur de philosophie.
La box de Pandore, c'est là où on peut voir Bacchanal Plus, on peut voir les séries de Grecflix. Ouais. Et donc, encore une fois, c'est du sexe, de la violence, du sexe, de la violence.
Hein. Et donc, ce qu'on découvre, c'est que dans la boîte de Pandore, il y a l'avarice, la vieillesse, la souffrance, la maladie, mais il y a aussi l'espoir. Alors pourquoi
l'espoir est la seule chose qui reste?
Et bien parce que
c'est le seul mal qui reste dans la boîte de Pandore.
L'héroïsme dont vous parlez tout à l'heure, c'est de savoir dire oui au réel, de savoir consentir à ce qui est avec une force d'âme et un courage, sans vouloir l'améliorer. À partir de là, l'espoir est un mal et est un poison qui m'enlève la force de dire oui au monde comme il est. Un poison qui me ôte le courage de consentir au réel.
On va retrouver maintenant quelques-uns des auditeurs d'Inter. Bonjour Frédéric et bienvenue dans le 7-9. Vous aviez une question à poser à Charles Pépin et Jules.
Eh bien écoutez, bonjour. Justement, je voulais parler de la boîte de Pandore, puisque au moment où elle l'avait ouverte et où tous les dons et tous les amis de l'humanité s'étaient échappés, il restait effectivement l'espoir. Alors je voulais leur demander, donc à cette époque où la confiance en toutes, en chacun et en personne s'efface, est-ce qu'il reste encore un petit peu d'espoir pour l'humanité ?
Bonne question. Merci Frédéric, Charles Pépin.
Merci. Il en reste. La question, c'est est-ce que ça nous fait du bien ou pas d'espérer? Et c'est la question qui est magnifiquement posée par cette mythologie de la boîte de Pandore. Moi, je pense qu'on peut alterner les deux. Des moments, on va dire, post-chrétiens, où l'espoir fait du bien. On espère une réparation, une justice. Et des moments où il faut savoir se dire, OK, c'est comme ça. C'est pas un c'est comme ça de la résignation. C'est un c'est comme ça tragique de l'affirmation. C'est comme ça. Je suis sans espoir. Je suis désespéré. Mais en un certain sens, ça veut dire joyeux. Parce que j'ai pas besoin de la consolation de l'espérance pour savoir aimer la vie comme elle est.
Mais si on vous écoute, ça veut dire que la question sociale est incompatible avec l'esprit tragique. C'est pas la peine de défiler, par exemple. C'est pas la peine de se mobiliser. Ouais, c'est pas la peine de faire grève.
Enfin, c'est vrai. C'est pas moi qui dis c'est vrai. C'est Homer qui dit c'est vrai.
Si vous voulez, en gros,
entre la question sociale de Marx et l'esprit tragique d'Homer, il n'y a pas de compatibilité possible. Parce qu'encore une fois, dans l'esprit tragique, on peut pas améliorer les choses. On peut juste avoir la force de dire oui. C'est le grand oui à la vie dont parlait Nietzsche en reprenant le tragique grec. Donc, en effet, il n'y a pas de place pour les gilets jaunes sur le rond-point de Corinthe ou d'Athènes. Ça n'aurait aucun sens dans ce monde-là. Et c'est ce que dessine Jules en parlant des toisons jaunes.
Ah, c'est Jason, le mouvement des toisons jaunes. Mais moi, je pense que si on doit réfléchir à ce qu'on peut espérer, est-ce que éventuellement peut nous apporter la mythologie aujourd'hui à cet égard, le rapport à la nature, par exemple, c'est une des plus grandes sources de désarroi et d'impuissance qu'on peut ressentir. On vient de vivre un épisode de tempête, mais c'est le dérèglement climatique en général. On n'a pas les outils judéo-chrétiens vraiment pour le comprendre. C'est pas la colère d'un dieu vengeur qui, avec son doigt, détruirait Sodome et Gomorre. La pensée grec de la nature, en personnifiant les fleuves, personnifiant les montagnes, en ayant cette espèce de rapport bien plus singulier au monde qui nous entoure, a une réponse pour ça. Et aujourd'hui, quand on fait, par exemple, il y a l'élaboration d'un statut juridique de la nature. Au Canada, il y a eu un fleuve qui a obtenu un statut juridique pour pouvoir, en son nom, attaquer l'État qui polluerait justement l'environnement.
Ou une entreprise qui polluerait le fleuve.
Exactement. Et cette pensée-là, elle peut vraiment se baser sur cet héritage grec. C'est, encore une fois, quelque chose de très, très prophétique.
Bonjour Pierre Armand et bienvenue sur France Inter.
Bonjour, bonjour messieurs.
Vous avez une question pour Jules?
Oui, j'avais une question pour Jules. On connaît son travail de dessin de presse également, de dessin de l'immédiat. On parle de colère, de sexe, de violence. J'aurais voulu savoir, par rapport à la géopolitique dont on parlait tout à l'heure, la place de Donald Trump dans la mythologie grecque.
Oui, qui est-ce que ce serait, tiens, d'ailleurs, Donald Trump comme héros, puisqu'on a un président jupitérien que vous avez décrit, le Premier ministre Édouard Philippe, en Poséidon, le dieu de la mer. Que serait Donald Trump, pour répondre à Pierre Armand?
Alors, probablement, il est sans équivalent, c'est une espèce de force noire. En revanche, il aurait profit à s'entourer de héros et de personnages de la mythologie grecque. Je vois très très bien Donald Trump signer un énorme contrat avec Ares Industries pour la défense, et avec...
Le
dieu de la guerre, évidemment, avec Dédale, parce que cette obsession de construire des murs autour des États-Unis, on pourrait l'imaginer dans la mythologie grecque, construire une espèce de muraille. Dédale, c'est lui qui a construit le labyrinthe, mais c'est un inventeur de génie qui, en permanence, crée une invention qui est censée améliorer le sort des hommes. Peut-être c'est l'idée de Donald Trump, mais qui crée derrière elle une catastrophe bien pire encore. Et donc, peut-être confié à cette espèce de savant fou qui est l'incarnation de notre hubris, justement, de notre démiurgisme, ça pourrait être quelqu'un qui bosse au cabinet de Donald Trump. De toute façon, il y a un turnover énorme à la Maison Blanche. Donc, bon, Dédale, il ferait pas long feu non plus, parce qu'on sait que le mur autour de la mythologie, il a craqué. Hein. Donc, les divinités égyptiennes, orientales, elles ont toutes intégré le panthéon grec.
De toute façon, la plupart des grands mythes, hein, de Tantale à Prométhée, nous racontent les méfaits d'un excès d'arrogance et d'un excès d'oubris quand l'homme se croit tout puissant et quand il refuse d'avoir l'humilité de reconnaître sa limite. De ce point de vue-là, on a tous les éléments chez Homère pour penser le cas de Donald Trump. D'ailleurs, ce qui est troublant, entre parenthèses, c'est que lorsque Jules parlait des dieux fleuves qui ressemblent beaucoup à ces éléments de la nature qui aujourd'hui ont un statut juridique dans la nouvelle pensée écologique, lorsqu'on pense à cette hubris qu'incarne Donald Trump, on se dit quand même, et c'est aussi pour ça qu'on a écrit cet album, 50 nuances de grec, c'est qu'en fait, il y a tout dans Homère. Mais qui est-il? D'ailleurs, a-t-il existé?
Il y a tout,
quoi. C'est mieux que la Bible, à la limite. C'est plus complet, presque. Et on se dit, quel est le génie qui a pu pondre cette espèce de somme comme ça?
Ça, c'est une grande énigme.
Ouais.
Est-ce qu'ils
sont plusieurs?
Existé,
est-ce que c'est une femme? Est-ce qu'il est vraiment aveugle?
Vous avez une hypothèse d'ailleurs sur l'existence ou non d'Homère?
Non, moi je pense que c'est une tradition orale et c'est ça qui est magique. D'ailleurs, ça a été répété, il y a eu des aèdes, des conteurs et c'est intéressant de ne pas savoir aussi.
Bonjour Caroline et bienvenue sur France Inter.
Oui, bonjour messieurs. Alors moi je suis enseignante en maternelle et j'ai lu récemment le livre de Monsieur Pépin. J'ai lu Les Vertus de l'échec. Et là, donc, bon, par rapport à l'enseignement, il dit des choses vraiment très très vraies. Une des choses que j'ai notées dans son livre, c'est que le plus important, c'est que les élèves aient le sentiment d'être bons dans quelque chose. Ça,
ouais,
ça c'est primordial. Voilà. Moi, je suis en maternelle, j'ai une classe de grande section. Et par rapport à ce rapport, là, vous dites le rapport écologique à la nature, l'éveil qu'on doit faire, on le fait en maternelle. Mais je pense que ma question, c'est la place qu'on doit encore donner à l'école maternelle. Mais par rapport à ce rapport écologique que les enfants doivent avoir, il doit être encore peut-être plus renforcé.
Merci Caroline.
Oui, il y a une place à donner à la vertu de l'échec, il faut rater de manière intéressante et pas de manière conformiste, une place à donner à la nature et c'est
rater
votre rôle.
De manière intéressante.
Oui, c'est un peu ça le résumé, c'est que vous pouvez rater de manière conformiste parce que vous n'avez rien tenté ou rater de manière prometteuse parce qu'il y a de la singularité dans ce ratage. Et votre rôle, madame, et c'est aussi notre rôle à nous d'ailleurs, c'est de pas rater les ratages intéressants, de pas rater les ratages prometteurs. D'ailleurs, pour revenir à la bande dessinée, ce que j'aime aussi dans ce dessin parfois, c'est qu'il y a un trait comme ça qui a l'air un petit peu raté, qui a l'air un peu rapide, mais qui au fond dit une vérité. C'est un peu aussi ça que j'ai l'impression une institutrice ou un professeur, moi je suis prof de philo, doit repérer. C'est quelque chose d'un trait qui annonce une singularité, la promesse d'une singularité, et sortir comme ça de l'école, de la norme, du conformisme et du bic rouge, quoi.
Jules.
Oui, et puis, la leçon de la mythologie par rapport à la transmission et à l'éducation, c'est aussi de ne pas trop se fixer de limites et de conformisme. C'est-à-dire qu'on est dans une société de consommation ultra formatée qui tend à limiter finalement les désirs de chacun, en même temps les exacerbant pour moins les contenter et consommer encore plus. Cette dimension-là...
La consommation de la BD, j'imagine que vous n'y êtes pas hostile. Je le dis en souriant.
Oui, 19,90€ dans toutes les bonnes librairies. Non, en fait, il y a quand même une liberté, une folie grecque par rapport à, je dirais, au monde conventionnel dans lequel on est obligé de se déployer, qui fait quand même pas mal de bien, y compris aux plus jeunes. Et d'une certaine façon, le philhellénisme naturel des enfants, parce qu'en fait les enfants qui lisent cette bande dessinée, mais de façon générale qui lisent les feuilletons de Muriel Zahle, je sais pas si vous les connaissez, le feuilleton d'Hermès, le feuilleton d'Artémis, qui sont aussi des grands succès autour de la mythologie pour les plus jeunes, comme ouais. Ça sont des mini Jean-Pierre Vernant, des mini hellénistes ultra sophistiqués. Ils connaissent les généalogies des dieux bien mieux que moi les enfants qui m'entourent, très souvent ils corrigent les pages de bande dessinée, les gags qu'on peut faire, en disant mais non, un tel n'a jamais couché avec un tel, ou il a pris tel accessoire plutôt qu'un autre. Donc cette dimension savante des jeunes enfants, cette appétence, ce goût, quelles que soient les classes sociales, et ça c'est une chose, oui, qu'on peut souligner peut-être, et qui est important pour Charles et moi, quand on fait ce genre de travail, c'est que il y a de l'unité à travers cette bande dessinée qu'on raconte de la mythologie, ça fait unité en France.
Et ça peut inspirer.
Voilà, ça peut inspirer.
J'en donne juste un exemple, puisque vous parliez de cet immense helléniste qui était Jean-Pierre Vernant et qui était aussi un très grand résistant. Il faisait le lien entre son action dans la résistance militaire et sa lecture d'Homère, du monde des héros d'Homère. Il orientait sa lecture savante, mais il privilégiait chez Homère la vie brève, l'idéal héroïque, la belle mort, disait Jean-Pierre Vernant.
Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, encore une fois, il y a tout dans Homère, il y a deux types d'héroïsme. Il y a le héros qui veut mourir au combat et qu'on ne l'oublie jamais, et il y a celui quand même qui veut rentrer chez lui et retrouver sa femme et son fils et sa ville. À chacun de choisir le héros qui lui convient.
Un mot, Jules, vous êtes le parrain de l'année de la BD 2020, l'année qui vient, et vous avez passé un message à Franck Riester, le ministre de la Culture, au cours d'une cérémonie qui était plutôt solennelle. Il a aimé la blague que vous lui avez faite. Est-ce que vous pouvez nous la dire à l'antenne?
Oui, enfin, il y en avait plusieurs. À la fois, c'était moi, j'étais content de qu'on m'ait proposé le rôle de parrain, comme ça, avec trois autres dessinatrices et dessinateurs de cette année, qui va mettre en avant la bande dessinée dans plein de structures. C'est un peu, je dirais, l'aboutissement d'un processus d'annoblissement de la bande dessinée dans le paysage culturel. Mais je voulais dire que il n'était pas question, pour autant, parce que 2020 était l'année de la BD, d'oublier 2019, qui était quand même l'année du LBD, et que ça, il fallait pas que ça serve de cache-sexe, je dirais, à l'ensemble d'une politique gouvernementale. Bien sûr, c'est important. Bien sûr, ça fait unité dans un pays qui est de plus en plus fragmenté. Donc, la bande dessinée a cette vertu-là, mais il ne faut pas que ce soit juste un gadget.
Bah vive 2020, année de la BD. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été les invités de France Inter ce matin. Charles Pépin, Jules, le deuxième tome de 50 nuances de grec, cette encyclopédie des mythes et des mythologies, est publiée chez Dargaud. Et je signale, Charles Pépin, que vous serez également au Théâtre de la Porte Saint-Martin le 20 janvier prochain pour une conférence autour d'une question magnifique.
Qu'est-ce qu'une vraie rencontre?
La réponse, donc, le 20 janvier.
Si vous avez des cadeaux à échanger.
Saint-Martin.